Aujourd'hui, à Rencontre spirituelle, il sera question de Marie de la Rousselière qui est décédée le 3 octobre, comme demain c'est aussi l'anniversaire du décès de Jeanne Lebert, j'ai gardé Jeanne Lebert pour demain, et j'ai pensé mettre Marie de la Rousselière aujourd'hui, elle qui a fondé la chapelle de la réparation et qui est une femme extrêmement intéressante. C'est aussi la fête des Saint-Ange gardiens aujourd'hui. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Les Saint-Anges gardiens, je vous le signale en passant, ce n'est pas une dévotion récente. Saviez-vous que c'est même plus ancien que la dévotion aux saints? Ça peut sembler surprenant parce que les pères de l'Église ont parlé des anges gardiens dès le début. Et évidemment que leur intérêt pour les anges gardiens, bien, ça remontait à l'Ancien Testament. Car dans l'Ancien Testament, c'est dans les lectures d'ailleurs de la messe des saints anges, qui est célébrée à travers le monde, à travers toute l'Église depuis déjà quelques siècles, eh bien, on raconte dans la Bible, donc dans l'Ancien Testament, que Dieu a donné un ange à son peuple, le peuple juif, pour le protéger puis le guider vers la terre promise, après son exil en Égypte, où il avait été réduit à l'esclavage. Et Dieu l'a libéré, grâce à Moïse. Et Jésus, lui-même, dans l'Évangile, bien, il parle des enfants. Des enfants qu'il ne faut pas mépriser. Puis souvenez-vous de ce qu'il dit, hein? Leurs anges dans le ciel voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Leurs anges dans le ciel. Est-ce que leurs anges seraient très très loin? Mais non. Nous sommes tous dans le ciel, mais nos yeux de chair nous empêchent de constater que le ciel est déjà ici-bas et partout. Car le monde de l'invisible, le monde de Dieu, il est là, nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Et les anges tourbillonnent autour de l'Eucharistie, autour de nous, autour des saints en particulier, évidemment. Et nos anges gardiens sont près de nous, mais on dit qu'ils sont dans le ciel, dans le sens qu'ils sont dans le monde de l'invisible. Alors Jésus dit bien, leurs anges dans le ciel voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. Et lui aussi, il est dans les cieux, mais il n'est pas loin. Il est là, tout près. Nous sommes en lui. Il est en nous. Celui qui croit en moi, dit Jésus, mon Père et moi, nous viendrons en lui. Nous y ferons notre demeure, évidemment avec l'Esprit Saint. Et ange signifie envoyer, messager, lorsque les anges apparaissent dans l'Écriture, mais c'est généralement pour remplir une mission particulière, une mission temporaire, et ensuite ils disparaissent. Et l'ange gardien, selon la doctrine de l'Église, c'est comme son qualificatif l'indique, est chargé, lui, d'une fonction, on pourrait dire, permanente, hein. Ça n'arrête pas, il est toujours là, il veille sur nous. Et sur des communautés, sur des groupes, sur des paroisses. Aujourd'hui, beaucoup peuvent se poser des questions au sujet de l'ange gardien. Beaucoup de gens mettent ça en doute. On croit que c'est des croyances de vieilles filles et de vieux garçons comme moi. Mais on peut dire, avec ceux-là, on peut se demander où était passé l'ange gardien d'un enfant qui s'est noyé accidentellement. Sans faute de sa part, pourquoi un ange gardien n'a-t-il pas sauvé un enfant qui s'est fait écraser? Je me souviens du fils d'une grande amie de ma mère qui avait été écrasé devant elle par un autobus, son seul fils, 5 ans. Ça avait été tragique, épouvantable. Est-ce que l'ange est distrait? L'ange d'une fille qui est violée, sauvagement, qu'est-ce qu'il fait? On pourrait allonger la liste des cas qui nous font nous poser des points d'interrogation avec les incroyants, nous, comme pour tout ce qui concerne la vie surnaturelle. Nous sommes croyants, nous sommes dans le domaine de la foi. Il y a ce qu'on voit, ce que notre intelligence limitée peut saisir. Mais il y a aussi ce que Dieu sait. Et cela nous dépasse infiniment. Et Dieu sait, il l'a dit par la bouche de Jésus, « Leurs anges dans le ciel voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. » C'est là qu'on voit que la foi n'est pas facile. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que de croire, d'espérer et d'aimer? On le voit aujourd'hui dans la vie de Marie de la Rousselière, fondatrice de la chapelle de la Réparation. Sanctuaire de la Réparation, que j'appellerais aussi peut-être la chapelle de la Consolation du cœur de Jésus. L'endroit où l'on peut aller de façon plus particulière pour répondre à l'amour de Dieu qui s'est incarné et qui constamment nous interpelle et nous appelle au bonheur. Et nous y répondons si mal. Hein? Nous sommes tous des pauvres pécheurs. Alors le sanctuaire de la Réparation, si vous voulez, de la Consolation du cœur de Jésus, a été longtemps connu comme le grand lieu de pèlerinage sur l'île de Montréal. Et ça, même avant que l'oratoire Saint-Joseph ne commence à être fréquenté, hein? Et ce sanctuaire doit son origine au dévouement inlassable d'une femme, Marie de la Rousselière, qui a travaillé toute sa vie, ou presque, puisqu'elle est devenue, sur le tard, dans passé 60 ans, elle est devenue carmélite en France. Eh bien, elle a travaillé une grande partie de sa vie à étendre le règne de Dieu dans le monde. Il faut dire qu'elle l'a fait aussi en tant que carmélite. Elle est morte âgée à 84 ans. Et depuis près de 100 ans, mais la popularité de cette chapelle qui est dans l'est de Montréal, à la pointe aux Trembles, tout à fait au bout de l'île. Mais sa popularité est allée toujours en augmentant et aujourd'hui, cet endroit est aussi bien connu des Américains que des Canadiens. J'y suis allé souvent, j'ai même eu l'occasion de prêcher, oui, je m'excuse, même si je suis laïque, de prêcher pour les familles du Sacré-Cœur. Dans l'immense chapelle moderne qu'on a construit il y a quelques dizaines d'années et qui est peut-être un peu froide en apparence, mais quand elle est pleine de 2000 personnes, je vous avoue que c'est très impressionnant. Hein. C'est un endroit à visiter que cette chapelle de la Réparation, mais tout l'endroit, tout le lieu, hein. Il y a des bocages, il y a des chemins de croix à l'extérieur, il y a une statue du Père Pio, une centre du Père Pio. Il y a toutes sortes de choses et même on peut y manger tout à fait convenablement un repas complet. C'est très bien organisé pour les pèlerins. Pour vous parler de Marie de la Rousselière, j'ai choisi un texte du Père Henri Guindon qui insiste davantage sur l'attachement de la Sainte Vierge à la Sainte Vierge de Marie de la Rousselière puisque c'est le mois d'octobre. Les gens qui sont pas de Montréal ne connaissent pas tellement Marie la Rousselière. Elle est connue parce qu'on connaît sa rue là-bas. Il y a une rue qui est très longue, qui va du fleuve jusqu'à la chapelle de la Réparation, qui s'appelle le boulevard de la Rousselière. De la Rousselière, c'est en trois mots. C'est pas tout le monde non plus qui est allé voir le sanctuaire, bien qu'il y en ait beaucoup qui sont allés là. Quand on part du fleuve, on va vers le nord, en principe, là, puis on aboutit à cet endroit-là. Et ça fait 100 ans ces jours-ci qu'elle a fondé ça. C'est en souvenir de cette femme extraordinaire, qui, elle, est arrivée de France en 1886, donc 10 ans plus tôt. Elle a fondé toutes sortes de choses ici. Elle n'a passé qu'une quinzaine d'années ici, parmi nous. Seulement 15 ans. Mais elle était extrêmement active et ses œuvres demeurent. Elle était en contact avec une foule de personnes, aussi bien de la hiérarchie que des simples fidèles. En résumé, sa vie, elle est née à Angers, c'est-à-dire à 300 kilomètres de Paris, en Anjou, le 12 mai 1840. Elle est née tout près d'un Carmel, où d'ailleurs elle va aller terminer ses jours plus tard. Son père s'appelait Alfred Augustin Hébert de la Rousselière. Comme vous voyez, c'est des nobles. Et assez riche d'ailleurs. Elle avait une fortune immense, Marie de la Rousselière. Et sa mère s'appelait Marie Clémentine, elle va prendre d'ailleurs le nom de Marie Clémentine en religion quand elle entrera au Carmel. Marie Clémentine Bodin des Plantes. Alors, les noms de la noblesse française, on en avait ici de ces noms qui sont presque tous disparus. On les a tous raccourcis. Elle a été ondoyée le même jour de sa naissance, puis elle a été baptisée seulement un an plus tard dans l'église Saint-Clément de Nantes sous les noms de Henriette, Anne, Florence, Marie. Habituellement, on porte le premier nom, mais elle, elle porte le dernier, Marie. C'est à Nantes, au château de la Mossardière, propriété de sa grand-mère maternelle, qu'elle a vécu en grande partie de sa plus jeune enfance avec sa sœur Clémentine, qui s'appelait le même nom que sa mère, et qui était d'un an plus âgée. Elle a reçu une formation religieuse tout à fait soignée, normale à l'époque, et puis elle reconnaît l'influence de cette formation qu'elle a reçue. Elle lui dit « Je lui dois mes premiers élans de ferveur. » Je ne sais pas si on se souvient chacun d'entre nous nos premiers élans de ferveur quand nous étions enfants et que nous recevions cette formation. Ça s'explique d'autant mieux que depuis le 9 février 1859, le château jouissait aussi de la présence du Très-Saint-Sacrement dans sa chapelle. L'austérité de la formation qu'elle a reçue, ça n'empêche pas son épanouissement. C'est une enfant enjouée, elle est vive de caractère. C'est une personne agréable, elle est même assez recherchée. Alors, elle a beaucoup de prétendants. Déjà à l'âge de 18 ans, au terme de ses études, chez les religieuses de l'IS. L'IS, ça veut dire la joie. Notre-Dame de l'IS, ça veut dire Notre-Dame de la joie. Alors, envers ces religieuses, elle se disait redevable de sa grande dévotion à la Sainte Vierge. Les parents qui appartenaient à la haute bourgeoisie là, dans la magistrature rêvaient pour elle d'un bon parti, d'un bon mariage. Il avait fiancé au vicomte de Lenardet, mais elle a refusé de se marier. Et voulant déjà se consacrer totalement à Dieu, il va lui falloir cependant encore 8 années de recherche avant de poser un geste qui illustre bien un trait de son caractère, va se manifester en diverses occasions de sa vie. À l'âge de 26 ans, en 1866, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle s'enfuit de la maison paternelle. C'était audacieux à l'époque. Elle laisse en évidence sur un buffet une lettre qui indique son choix de vivre au Carmel de Paris. Et savez-vous que le Carmel de Paris, où il est situé rue d'Enfer, D'E-N-F-E-R, drôle de nom de rue pour un Carmel. Mais elle a quitté bientôt ce Carmel. Elle n'avait pas pour le moment ce qu'il lui fallait. Mais elle avait une grande dévotion eucharistique. Elle croyait profondément à la présence réelle. Elle avait un grand amour de la Sainte Vierge. Et ces deux dévotions sont comme les deux pôles de sa vie. Ça montre une fois de plus comment Marie conduit toujours à Jésus, même lorsque dans sa discrétion, son action n'est pas toujours perceptible. Faut pas s'arrêter à Marie. Marie conduit à Jésus, qui est tout amour. Faut pas avoir peur de Jésus, faut pas demander à Marie de nous préserver de la colère de Jésus. Quelle horreur! En cas chez Marie de la Rousselière, les dévotions sont conjointes. Et dès 1860, et peut-être plutôt même, à Nantes, durant ses jeunes années, sa grande dévotion à l'Eucharistie l'avait déjà mise en rapport avec Saint-Pierre-Julien Aymard, le fondateur des Pères du Saint-Sacrement, là, de la rue du boulevard Mont-Royal à Montréal, qui est aujourd'hui canonisé, comme on sait. J'ai fait une cassette sur lui, il y a toute une belle émission sur Pierre-Julien Aymard qui est disponible. Alors, elle est devenue une de ses disciples les plus ferventes, elle est membre de son centre eucharistique, et son âme ardente, ingénieuse et tenace a tout ce qu'il faut pour mener à bien toutes les initiatives. Elle installe partout ce qu'elle appelle des tirelires eucharistiques pour ramasser un peu d'argent pour aider les Pères du Saint-Sacrement dans les paroisses et chapelles de Paris pour que le Saint-Sacrement soit exposé afin justement de consoler Jésus et d'être près de lui. Et nous verrons tout à l'heure l'épanouissement de la vie de Marie de la Rousselière. Jacques Boucher, à l'orgue de la Basilique de Québec, interprétait une œuvre de Charles Tournemire, qui a justement vécu à la même période que Marie de la Rousselière. Il est né en 1870, il est mort en 1939. Et Charles Tournemire était un mystique. C'était un homme, un compositeur, un organiste de Bordeaux, qui nous a laissé des œuvres inspirées, magnifiques. Charles Tournemire. Alors, Marie de la Rousselière veut surtout gagner les prêtres à l'adoration du Très-Saint-Sacrement en organisant toute une chaîne d'adorateurs qui sont composés exclusivement de prêtres. Alors, elle a soumis l'idée à son directeur, qui était un prêtre du Très-Saint-Sacrement. Et puis, celui-ci lui avoue que le père Aymard, Saint-Pierre-Julien Aymard, y avait pensé. La mort l'en avait empêché. Mais le moment n'était pas encore venu, la congrégation n'avait pas encore assez de sujets. Alors elle se met à penser que la meilleure chose, ce serait de trouver des adorateurs prêtres en écrivant à des prêtres qu'elle connaît. Et le 17 novembre grandira sans cesse, si bien que l'œuvre a atteint en peu de temps 120 000 membres, y compris parmi les évêques. Et ce que l'on écrit à date sur Marie de la Rousselière concerne surtout... Et pour cause, sa dévotion à l'Eucharistie. Mais il faut pas oublier que dans le milieu de Nantes, sa ville natale, où elle a grandi, on avait une profonde dévotion à la Sainte Vierge. Ça avait été renforcé aussi par la définition du dogme de l'Immaculée Conception en 1854. Elle n'avait que 14 ans à ce moment-là. Et les sanctuaires à Nantes ont connu un renouveau d'affluence. Toutes sortes de Notre-Dame, comme on dit, Notre-Dame de bon secours, Notre-Dame de toute joie, Notre-Dame de bon garant, etc. Notre-Dame des anges aussi. Alors en 1886, Marie de la Rousselière a 46 ans, et sa sœur, dont je vous ai parlé, qui avait un an de plus, la Clémentine, qui est mariée depuis 21 ans, à André Brisset-Desnos. Et vous savez qu'il y a des Brisset-Desnos à Montréal qui sont de cette famille, qui sont vivent parmi nous. Je me souviens, on en avait comme voisins à Saint-Vincent-de-Paul. Ils avaient une très jolie maison et ma mère y allait souvent. Elle s'entendait beaucoup très bien avec Madame Brisset-Desnos. Brisset, B-R-I-2-S-E-T, D-E-S et Nos, N-O-S. Il y en a dans l'annuaire de Montréal, d'ailleurs. Donc, sa sœur Clémentine était mariée depuis 21 ans à André Brisset-Desnos. Elle vit à Paris. Elle a 7 fils, voyez-vous, le nom s'est répandu, et une fille qui sont nées de ce mariage. Elle est de faible santé. Elle a pu compter sur l'aide de sa sœur, qu'on appelle la tante Marie, Marie de la Rousselière. Les enfants l'aiment beaucoup. Dans l'intention d'ailleurs d'échapper à des lois anticatholiques qui... Ils nuisaient beaucoup à la formation religieuse de leurs enfants en France, mais les époux Brisset-Desnos ont décidé d'émigrer au Canada. Il y en a beaucoup de familles catholiques qui sont venues au Canada à ces moments-là, et au début de notre siècle, beaucoup sont retournés, mais plusieurs sont restés à cause de ces lois là-bas. Marie de la Rousselière, dans un texte qu'elle a écrit elle-même, en 1918, qu'elle a écrit du Carmel d'Angers, où elle est devenue carmélite, elle dit « La mère... et le père sacrifiaient leur pays pour fuir les atteintes d'une législation impie. Ils se condamnaient ainsi à l'exil afin de sauver la foi de leurs enfants. Et Dieu les a récompensés en leur donnant 2 prêtres. L'aîné, Clément Brisset, Desnos, vécut peu après l'ordination. Cet enfant se distinguait surtout par une grande dévotion envers la très sainte Vierge, écrit Marie de la Rousselière, la note dominante de sa vie. Il avait été ordonné prêtre le 29 juin 1894 dans l'église du Très-Saint-Sacrement. À l'âge de 24 ans, c'était normal, l'âge normal à l'époque. Et puis, elle ajoute, « Maintenant, je dois ajouter que je suis parti moi-même pour le Canada pour soigner ma sœur malade et qui réclamait mes soins. » Ce qu'elle était en France, Marie de la Rousselière, le demeure au Canada. Elle a des recommandations très fortes. Une recommandation du cardinal Richard, qui est archevêque de Paris, et de Monseigneur Chénelon, qui est ancien curé de la Madeleine. La Madeleine, c'est une église très importante à Paris, et qui va devenir, lui, archevêque de Sens. L'exposition du Très-Saint-Sacrement a lieu tous les jours de la semaine, d'église, en chapelle, jusqu'à son oratoire privé. Puis avant de quitter la France, dit-elle, j'avais pris toutes mes précautions, en faisant demander à Rome, évidemment, la permission d'avoir ma chapelle au Canada et d'y conserver la Sainte Réserve, ce que j'ai obtenu sans difficulté. Comme quoi, c'était déjà un peu permis, déjà. Monseigneur Fabre, archevêque de Montréal, l'accueille. Il apprécie cette femme. Qu'on me donne des âmes qui traitent le Saint-Sacrement comme le fait Mademoiselle la Rousselière. J'approuverai de tout cœur l'octroi de semblables privilèges d'avoir un oratoire privé. Après bien des démarches, bien elle réussit auprès de l'archevêque de Montréal, ce qui était son plus grand désir. Elle voulait faire venir les pères du Très-Saint-Sacrement, qui s'y sont installés en 1890. Les activités sont nombreuses. Elle a toujours le même but. L'adoration puis la réparation, en d'autres termes, la consolation, je vous le rappelle. Aimer Jésus, aller vers lui dans la présence réelle de l'Eucharistie, qui nous incite à aller vers les pauvres, vers le prochain. Car de l'hostie retentit cette parole, ce que vous faites au plus petit d'entre les nés, c'est à moi que vous le faites. Comment peut-on vénérer et adorer la Sainte Eucharistie sans ressentir jusqu'au fond de son cœur ce cri de l'Évangile? Si on se contente de vraiment rester devant l'Eucharistie sans rien faire, à moins que ce soit une vocation très particulière, il y a là quelque chose qui cloche. Alors la communauté de sentiments, puis de leur dévotion respective à l'Eucharistie et à la Sainte Vierge, l'amène, elle, a rencontré en 1892 un prêtre français qui est curé de la paroisse Notre-Dame-des-Neiges de Masson au diocèse d'Ottawa, l'abbé Alexis-Louis Mangin, qui est le fondateur des Servantes de Jésus-Marie. Les contemplatifs a travaillé en faveur de cette œuvre nouvelle qui va naître en 1895. Elle s'occupe de mille et une choses. Et un jour, ce prêtre avait célébré la messe, puis il dit: que c'est bon du bon monde, devenons toutes des saintes, mademoiselle. C'est vrai que ça fait du bien de rencontrer des saints et des saintes. Pour ce qui est de l'abbé Clément Brisset-Desnos, son neveu, elle l'appelait mon cher petit Clément. Il est né à Passy, dans la banlieue de Paris, en 1870. Il avait commencé ses études chez les Jésuites, là-bas, sur la rue de Madrid. Il a passé au Canada avec sa famille. Il a continué à Montréal, sous la direction des Jésuites, au collège Sainte-Marie. Il y a toujours la chapelle du Jésus, là, sur la rue de Bleury, au sud de Sainte-Catherine. Très belle église. C'était l'église du collège Sainte-Marie. Le collège a été détruit, malheureusement, il y a quelques années. Donc, il a fait ses études-là. Il a été ordonné prêtre à Montréal par Monseigneur Fabre. Dans la crypte de l'église des Pères du Très-Saint-Sacrement, elle existe toujours, cette crypte, sous la grande église des Pères du Saint-Sacrement, sur la rue Mont-Royal, métro Mont-Royal. Belle église encore. Il est ordonné en 1894, et après avoir fait du ministère à Montréal, il est mort en 1896, il y a donc 100 ans, le jour de la Pentecôte. Il est mort de phtisie galopante. On le considérait comme un saint. En 1896, Marie de la Rousselière publiait à frais d'auteur, avec une courte préface sans signature, la première édition canadienne du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. C'est elle qui fait publier ça, à ses propres frais, ce qui coûtait très cher. Elle a dépensé des sommes fabuleuses. Un jour, Marie de la Rousselière fait hommage à M. Mangin, dont je vous ai parlé, ce prêtre français, de quelques exemplaires de ce petit volume qu'elle venait de publier. Il ne connaissait pas ça. Car c'est un livre qui était disparu un peu et qu'on a retrouvé ce nom au 19e siècle, au fond. Elle avait connu, vous savez, elle avait connu cet ouvrage grâce à son origine nantaise, venant de Nantes. Ce traité qui avait été retrouvé 126 ans après la mort de son auteur, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, en 1842, soit 2 ans après la naissance de Marie de la Rousselière, a été édité la première fois l'année suivante, en 1843. Il avait connu depuis un nombre considérable d'éditions. Alors, dans les mains de l'abbé Mangin, l'ouvrage était comme la semence évangélique, jetée dans une bonne terre. de reproduire du sang pour un, il l'explique à ses filles. Et sa confiance filiale en Marie devient telle qu'avec sa protection puis la grâce de Dieu, c'est ce qu'il dit dans un moment particulièrement difficile de sa fondation, il dit « Je me sentais capable de lutter contre tous les obstacles. Je n'avais plus de doute que l'œuvre venait de Dieu. » Alors les relations avec M. Mangin se continueront durant tout son séjour au Canada et au-delà, par des visites et des échanges épistolaires. Et c'est dans ces lettres surtout que l'on découvre l'intensité de vie spirituelle de Marie de la Rousselière. Il y a en elle un zèle, vraiment un zèle qui la dévore, puis une profondeur de sa foi, de son obéissance aussi, la ténacité de son caractère quand il s'agit de mener à bien une entreprise, puis le mystère de la croix par lequel le Seigneur la purifie, oui, nous sommes purifiés par cet étrange mystère de la croix. Et nous verrons tout à l'heure l'aboutissement de la vie de Marie de la Rousselière, décédée un 3 octobre demain. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces tirelires ou de ces petites banques eucharistiques là, pour ramasser un peu d'argent. On voit ça dans les banques un peu partout d'ailleurs, des petites tirelires pour toutes sortes de motifs et de raisons. Il y en a d'ailleurs pour l'oratoire Saint-Joseph, ou du moins il y en avait pendant des années. Alors elle faisait déjà ça, elle, à son époque. C'est un succès d'ailleurs. Elle avait bien d'autres initiatives. D'ailleurs, pour le bien, elle avait toutes sortes de projets. Elle pensait à toutes sortes de choses. Elle a publié toutes sortes de puscules aussi, qu'elle vendait à un prix très très bas. Elle répandait, comme on faisait à l'époque, des images, des objets de piété. Vous vous souvenez, quand on était jeune, hein, les images, ça circulait en quantité, les médailles et toutes ces choses-là. Il y avait de l'exagération, mais il y avait aussi de très bonnes choses là-dedans. Et le 16 mars 1896, il y a 100 ans, elle écrivait à M. Mangin, ce prêtre, « Vous me dites que vous avez fait faire un tableau représentant la Sainte Vierge allaitant l'enfant Jésus. » Bien oui. On voit ça souvent dans les vieilles représentations de la Sainte Vierge. Et elle ajoute, « Votre entreprise, fort pieuse, m'a frappé extrêmement, car il y a 6 semaines, j'avais entrepris de faire faire une statue de la Vierge Mère allaitant le divin enfant. » Comme on voit, elle avait les idées assez larges pour son époque, hein? Et un prêtre m'en a empêché. Tout mon but était de faire aimer la sainte enfance de Jésus. Mon désir était grand, mais il a bien fallu que j'obéisse à ce prêtre. Évidemment qu'on peut sourire aujourd'hui de la pruderie de cette époque. Hein. Je me souviens de la première fois que j'ai vu une dame Dupont à Outremont allaiter son enfant dans une église à l'église Sainte-Madeleine à Outremont. Très discrètement, j'étais resté très surpris. Et en allant chez elle, je l'ai vu encore le faire parce que j'avais son fils, c'était mon petit ami, et c'était des Français. Et je l'ai trouvé très audacieux. Je n'avais jamais vu ça, j'avais 7-8 ans. Mais ils avaient bien raison, car c'est très beau. Dans une société comme la nôtre, où la pudeur n'existe plus, on a de la misère à comprendre ça. Hein. Saint-François de Sales, ça n'en faisait pas tant sur l'allaitement de la Sainte Vierge. Hein. Puis Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort n'a jamais été censuré quand il écrit dans son traité de la vraie dévotion, ouvrez les guillemets, « Dame singulièrement dévote à Marie, nourrie de son lait. » Bien oui, il écrit ça. Dans un autre passage, il dit « Mangez mon pain qui est Jésus et buvez le vin de mon amour que je vous ai mêlé avec le lait de mes mamelles. » Ça nous rappelle ce beau texte de Sartre, hein? Jean-Paul Sartre, où il dit, dans un texte admirable sur la Sainte Vierge, il parle de son lait qui devient le corps du Fils de Dieu. C'est très très beau. Quelques jours plus tard, le 9 avril, toujours 1896, elle écrit de nouveau, « J'ai reçu votre charmante Vierge, l'idée délicieuse, ça me charme le cœur. Je l'ai mise à la place d'honneur, afin qu'elle soit sans cesse sous mes yeux. Voulez-vous, en union avec moi, dire tous les soirs 3 pater, 3 ave, avec l'invocation « Ô Jésus, par votre divin allaitement, bénissez-nous. » Qu'on dise ce qu'on voudra, c'est très beau. Il y a là une grande tendresse à ce geste particulièrement maternel d'une femme qui allaite son enfant. C'est beau. Elle ajoute, c'est la chère sœur Saint-Pierre, vous savez, cette carmélite de Tours qui a propagé la dévotion à la Sainte Face telle que dessinée par M. Dupont, du moins que M. Dupont de Tours avait. Je vous ai déjà parlé de lui. Alors c'est la chère sœur Saint-Pierre, dont je vous parlerai un jour, qui avait cette petite pratique pendant 15 mois, au nom des 15 mois que l'enfant Jésus s'est allaité au sein de la Divine Mère. Vous direz que c'est des chinoiseries. Ce ne sont pas des chinoiseries, ce sont des remises à l'avant du caractère tout à fait maternel de cette femme qui est Marie à l'égard de son enfant qui est Jésus, un homme tout petit, cet enfant, ce bébé et sa mère. On trouvera peut-être qu'elle insiste un peu fort sur ce sujet, mais considère ça avec une candeur toute mystique. C'est bien à tort que des âmes vont se scandaliser de ça. De toute façon, il est en bonne compagnie, il est en compagnie des grands saints, des grands mystiques. Le 13 juin, toujours 1896, elle écrit « Je n'ai pas pu vous écrire plus tôt car la mort nous a visités, nous a pris le cher abbé Clément Brisset de Nos, le fou de la Vierge Immaculée, comme elle écrit. Aussi, il s'est endormi entre les bras de sa divine mère. Et du haut du ciel, je lui demande de prier pour que le règne de Marie s'étende de plus en plus. Il me l'a promis avant de mourir. » Alors elle revient sur le sujet de la Vierge de l'allaitement, puis elle poursuit encore la Vierge de l'allaitement. Mais c'est sympathique. Ouvrons notre cœur. Chose étrangement admirable, et dont je vous demande le secret le plus grand, car je le garde enfermé dans mon cœur jusqu'au jour où je pourrai le dire, mais il me semble que je ne dois pas le cacher pour vous. Quelques instants avant de mourir, ayant son entière connaissance, il me fait signe de m'approcher de son lit, puis il me dit tout bas, « Tante chérie, vous prendrez mes petites économies de la banque pour faire faire la Vierge de l'allaitement divin. » J'étais loin de m'attendre à cela, n'y pensant pas du tout. Aussi, j'ai recueilli cette parole comme venant du ciel et je m'empresse maintenant de la faire exactement comme votre petit modèle que j'ai porté chez Carli. Carli, c'était un fabricant italien de statues, souvent pénibles en tous les cas. Gardez cela pour vous seul et priez pour que cette Vierge Immaculée fasse un bien immense. Mais les difficultés se multiplient. Je vous raconte ça parce que c'est sympa. Il ne faut pas toujours être trop sérieux. Tu ne vas pas tout seul dans les œuvres du bon Dieu, dit-elle. Vous le savez mieux que moi encore. Elle écrit ça le 1er août 1896. Elle ajoute, mais si la divine Vierge Marie est avec nous, qui sera contre nous? Je ne m'arrêterai que lorsque je serai certaine de pouvoir déposer ma Vierge de l'allaitement divin sur un autel dans ma chapelle de la réparation. Elle a du cran, hein? Faut aimer ce genre de femme qui, dans des époques très difficiles, à la même époque que le Thérèse de l'Enfant Jésus dont je vous parlais hier, comme Thérèse, elle a du caractère, comme Thérèse, elle a de l'audace, et comme Thérèse l'Enfant Jésus, elle est parvenue à de grandes choses, elle est devenue elle-même carmélite. Le projet de la chapelle avance, hein? La chapelle de la réparation, de la consolation du cœur de Jésus. Alors le 24 septembre 1896, il y a 100 ans, elle écrit « La soumission de la chapelle se fait samedi et probablement au commencement de la semaine et je vais avoir beaucoup de mal au sujet de la Vierge de l'allaitement, mais je ne reculerai pas, soyez-en assurés. » On est venu me dire de plusieurs endroits différents que cette Vierge n'était pas convenable et que personne n'en voulait de ces images-là. Il y a une âme même tellement troublée à ce sujet qu'elle a dû en parler à son confesseur. C'est le combat qui commence. Tant mieux, je vais poursuivre d'autant plus. Alors, un mois plus tard, le 20 octobre, la chapelle n'est pas encore commencée. Elle écrit, on me tourmente pas mal. J'aperçois la croix, le long chemin. N'est-ce pas de cette façon que les œuvres de Dieu se font? Je marche dans les ténèbres épaisses, dans la nuit très obscure, dans l'aridité au grand complet, tout en sentant cependant dans le fond de mon âme que je fais l'œuvre de Dieu. Je n'ai qu'un point fixe, celui de faire en tout la volonté de ma divine mère du ciel. Quelle femme merveilleuse, hein? Et dans une lettre sans date, probablement au printemps suivant, elle écrit, j'ai le cœur navré, Donc là, c'est, ne vous scandalisez pas, là. Elle dit, le père Guindon raconte le Saint-Père Frédéric. Non, c'est elle qui l'écrit, c'est vrai, c'est elle qui écrit ça. Le Saint-Père Frédéric me fait une guerre acharnée pour que j'enlève ma statue de la Vierge de l'allaitement. Et pourtant, elle est ravissante de modestie. Cela m'est si pénible que j'en souffre beaucoup. Que les persécutions des gens de bien sont terribles. Que les persécutions des gens de bien sont terribles. Il me dit que tout le monde va se moquer de cela. J'ai dit que Monseigneur Duhamel avait approuvé cette Vierge. Hier soir, il m'a laissé un peu de paix. Sainte Thérèse d'Avila, dont je vais vous parler de nouveau là, le 15 octobre, bientôt, là, écrivait un jour, dans le même sens, Sainte Thérèse d'Avila qui parle, « Je me voyais condamné par les gens de bien. Cette épreuve, je la regarde comme des plus sensibles. » C'est vrai que quand on travaille dans l'Église, on essaie de faire de notre mieux. Ça nous arrive de recevoir des coups de matraque. Que voulez-vous? C'est comme ça. Et sa persévérance, à Marie de la Rousselière, sa foi, vont avoir gain de cause. Et quelque temps plus tard, en juin, ou sans date précise, elle peut écrire, « Ma chère Vierge de l'allaitement va être remise sur son trône. Le curé me l'a promis. Et le père Frédéric, oui, le bon père Frédéric, a enfin entendu raison. C'est mon cher Clément, son neveu qui est au ciel, qui du haut du ciel a inspiré cela au curé qui était contre plus que les autres. » Alors, c'est pas réglé. Hein. Elle dit, « J'ai vu le grand vicaire, il est plus acharné après qu'avant, le grand vicaire. Je n'ai plus d'espoir que dans l'archevêque, il est très petit. Mais je sens bien qu'il faut que je souffre beaucoup pour de semblables grâces. » Et elle ajoute « fiat », c'est le mot de la Sainte Vierge qui dit à l'ange que les choses se fassent, qu'elle devienne mère de Dieu. Le 3 juillet, il y a une nouvelle lettre. Je suis allé hier voir le nouvel archevêque, c'est Monseigneur Bruchesi. Je ne sais pas s'il sera pour moi, mais si Jésus est avec moi, que craindrai-je? J'attends qu'il ait reçu ses bulles de Rome, et c'est très drôle, il veut être sacré le 5 août, fête de Notre-Dame-des-Neiges. C'est la fête aussi de la Vierge de l'allaitement divin, et je sais qu'il ne l'aime pas du tout. Peut-être n'y a-t-il pas pensé. Monseigneur Bruchesi, qui est nouvellement ordonné évêque finalement, m'a promis de visiter sa chapelle les 16 ou 17 août, donc une dizaine de jours après sa consécration. Elle écrit, « Il a été pour moi d'une bonté surprenante. J'étais loin de m'y attendre, comme quoi faut toujours espérer. Aussi, je lui ai ouvert mon cœur au sujet de ma chapelle, la chapelle de la réparation, en lui disant que mon plus grand désir était d'y faire prier pour les prêtres de son diocèse. » C'était fondé pour ça, pour prier pour les prêtres. Quand on y va, prions pour nos chers prêtres, qui ont tant de problèmes, qui sont en butte à tant de difficultés, que nous trahissons nous-mêmes très souvent. Nous sommes bien coupables, nous, à l'égard de nos prêtres, souvent. Elle ajoute, cette pensée-là lui a été jusqu'au cœur de prier pour les prêtres. Il a hâte de la visiter, la chapelle, pour que ma Vierge, je ne pense pas l'obtenir, à moins d'un coup d'adresse de la Divine Mère. Je lui ai appris, enfin, que le jour de son sacre, était la fête de Notre-Dame-des-Neiges et de l'allaitement divin. Il ignorait complètement. Il m'a répondu, « Je connais Notre-Dame-des-Neiges à Rome. Je n'y ai jamais vu cette Vierge. » Alors, je lui ai donné l'image et il l'a gardée comme souvenir. La visite promise s'est accomplie. Le 29 août, Marie de la Rousselière a écrit à M. Mangin, « Monseigneur a été très aimable, mais il n'a rien voulu accorder, pas même ma Vierge. Je suis navré. Il ne m'a permis que 2 ou 3 journées de prière réparatrice par semaine sans vouloir rien de plus. Et heureusement, elle est soutenue par son curé qui l'encourage à continuer. Et d'autre part, l'épreuve ne manque pas. Vous avez été jusqu'à garder le silence comme des religieuses, dit-il, et on reste ébahi devant toutes les mesquineries. Mais c'est comme ça. Elle dit, tous les mardis, nous sommes environ 45 à 48, et on vient d'aller faire des rapports à Monseigneur, et ce dernier vient de faire interdire les sermons à la chapelle. Monsieur le curé en a beaucoup de chagrin. Il faut obéir. Je ne serais pas étonné que le démon la fît fermer. La chapelle, la réparation, et à travers tout cela, mille autres ennuis matériels. Elle veut placer 186 000 brochures pour faire connaître la chapelle. Et en venant au Canada, bien Marie de la Rosselière avait un but bien déterminé, c'était répandre le culte eucharistique, y faire venir les fils de Saint-Pierre, Julien et Marc, les pères du Saint-Sacrement, et deux autres œuvres se sont présentées. Mais toujours dans la même orientation, les servants de Jésus-Marie, puis le sanctuaire de la réparation. Et elle-même raconte ses débuts de la réparation au Sacré-Cœur, de la consolation du Saint-Cœur de Jésus, à laquelle sera consacrée la chapelle. C'est la chapelle de la réparation à Pointe-aux-Trembles. Et malgré sa longueur, de tout ce que je vous dis, c'est important pour la valeur historique. À rencontre spirituelle, il est donc question de Marie de la Rousselière et de cette chapelle de la réparation tenue par les pères capucins, qui sont des franciscains en fait, des fils de Saint François, les pères capucins, et qui administrent ce centre de façon magnifique. J'y suis allé souvent et j'ai apprécié beaucoup les homélies et les célébrations là-bas, tenues par les capucins, qui ont souvent une grande vie intérieure. Elle écrit, Marie de la Rousselière, « Mon beau-frère, M. André Brisset, avait acheté une maison non loin du village de Pointe-aux-Trembles, avec une concession en face de notre habitation et du Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent. Cette concession était des plus sauvages. C'est pourtant vrai que c'est dans ce bois que se trouve maintenant la chapelle de la réparation au Sacré-Cœur. Nous y allions avec les enfants, surtout les dimanches, pour y prier et chanter l'Ave Maria Stella, le Magnificat. Ce sont deux chants en latin, là, qui s'adressent à la Sainte Vierge. Mais c'est-à-dire le Magnificat, c'est le chant même de la Sainte Vierge, tel qu'on le trouve dans l'Évangile de Saint-Luc. Hein, je le dis pour les gens qui connaîtraient moins notre religion chrétienne. Chantait d'autres cantiques aussi. L'écho seul répondait à nos prières. C'était grandiose. Mon cher petit Clément, c'est son neveu, ça, qui est devenu prêtre et qui est mort tout jeune. Mon cher petit Clément et moi, nous avions eu les mêmes pensées. Celle de mettre dans l'un des gros arbres du bois une très sainte vierge, c'est-à-dire une statue, une très sainte vierge, qu'il aimait tant, et même de lui faire une petite grotte dans le creux d'un arbre, assez profonde, pour préserver la petite statue. Dans notre grande simplicité, nous espérions que cette Vierge resterait là jusqu'à la fin du monde. Une fois la grotte achevée, Clément Brisset des Noces, prit sa petite statue, la plaça sur son cœur, et organisa une procession très solennelle, car c'était loin de notre maison. Et l'opération terminée, il se retourna vers moi et me dit, « Ma tante, qui sait? Peut-être que dans plusieurs années d'ici, cet endroit si sauvage deviendra le lieu d'un grand pèlerinage. » Et Marie de la Rousselière ajoute dans son texte, « Le cher enfant avait eu une lumière prophétique à ce sujet. Il avait l'âme si pure, si ardente, qu'il ne pouvait douter du cœur de celle qu'il aimait, la Sainte Vierge, et à laquelle il avait confié son âme d'enfant. » Alors, certains scandales qui se produisent au bout de l'île, puis la présence du prêtre apostat Chniki. J'ai pas l'intention de vous parler de Chniki, mais quel prêtre pénible, n'est-ce pas, que fait beaucoup de tort au christianisme, non seulement au catholicisme, mais aussi au presbytérien, parce qu'il s'est fait pasteur presbytérien, puis a dû être renvoyé par les presbytériens aussi, et qui a été un prêtre épouvantable. Il était alcoolique, le pauvre malheureux, puis courait après les femmes d'une façon invraisemblable. Alors donc, la présence de ce prêtre apostat Chniki qui habitait non loin de là, elle écrit que tout ça nous donna l'idée de faire bâtir une petite chapelle dans cet endroit si sauvage. D'après ses rapports, nous n'avions qu'un seul désir, réparons, et bâtissons une chapelle pour réparer tant de crimes. Si je vous disais les crimes de cet abbé Schnicki, de cet ex-abbé Schnicki, vous seriez terrifié. La chapelle bâtie à ses frais, ce qui était quelque chose, peu avant son départ d'ailleurs pour le Canada, elle avait vendu cette espèce de châtelet, de ce château de la Mossardière dont je vous ai parlé au début, au prix de 320 000 francs or. C'est une fortune immense à l'époque. On peut comprendre alors qu'elle ait pu éditer là, à ses frais, le traité de la vraie dévotion dont je vous ai parlé plus tôt, et d'acheter toutes sortes de choses. Donc, la chapelle est bâtie à ses frais, elle est donnée au Père du Très-Saint-Sacrement, avec un grand terrain alentour, en l'année 1900. Ils en ont gardé la direction durant une vingtaine d'années, puis les Pères Capucins en sont les gardiens depuis 1921, après un intervalle où il y avait un particulier, l'abbé Michel Beaudoin, qui en a été le directeur. Les Capucins y sont donc depuis 75 ans. L'année suivante, après la mort de son beau-frère et de sa sœur, le 21 juin 1901, Marie de la Rousselière, qui est très attachante, quelle femme merveilleuse, retourne définitivement en France, où ses neveux et sa nièce non mariée sont déjà retournés. Nous avons donc perdu beaucoup de Français qui sont retournés comme ça. À 62 ans, le 24 septembre 1902, il y a 94 ans donc, elle entre au Carmel d'Angers, tout près de là où elle a grandi, à quelques pas donc de sa maison natale. Elle va donner donc au Seigneur Jésus, qu'elle aime, 22 ans de sa vie encore. Et elle va y mourir, comme je vous l'ai dit plus tôt, à 84 ans, le 3 octobre 1924. C'est l'anniversaire demain. Ceux qui habitent près de la chapelle de la Réparation, profitez-en. Elle est morte un premier vendredi du mois. Sous le nom de sœur Marie-Clémentine de Jésus-Hostie, ne riez pas, ce sont les noms de l'époque. Et Marie rappelle sa dévotion à Marie, et de Jésus-Hostie rappelle sa dévotion à l'Eucharistie. Ce sont les noms de l'époque, les noms de religion. Le prestige dont jouissait Marie de la Rousselière auprès des Pères du Très-Saint-Sacrement, qu'elle avait fait venir au Canada, l'appréciation que lui témoignait le clergé en général, et aussi les écrits religieux qu'elle propageait ont favorisé l'épanouissement du sanctuaire de la Réparation. Elle avait toute la confiance de l'archevêque de Montréal, Mgr Fabre, qu'il avait même appelé son très précieux auxiliaire. C'est une femme, déjà, qui est auxiliaire d'un évêque. Mgr Bruchesi, il a continué la même confiance, il est même allé la voir deux fois au Carmel d'Angers. Elle a continué par sa prière, sa correspondance, à diriger son œuvre, qui lui tenait tant à cœur. Et le 15 novembre 1919, elle écrivait à l'abbé Beaudoin, Michel Beaudoin, là, « Mon rosaire est une partie de ma vie, je le dirai désormais en union avec vous. » Une de ses dévotions mariales se rattachait à sa dévotion de réparation ou de consolation du Sacré-Cœur, du cœur dévoré d'amour de Jésus. Mais c'était celle de la Vierge de Pellevoisin. C'est une dévotion marginale, c'est dans la vie de Marie de la Rousselière, mais elle cadre fort bien avec l'ensemble des objectifs qu'elle poursuit à la chapelle de la Réparation, c'est-à-dire la prière de consolation pour la conversion des pécheurs. « Je suis toute miséricorde et maîtresse du cœur de mon Fils », avait dit, semble-t-il, l'apparition de la Sainte Vierge à la voyante Estelle Faguette en 1876, il y a 120 ans, au cours d'une série de 15 apparitions. À la dernière apparition, le 8 décembre, la Sainte Vierge dit à la voyante « Je t'ai choisi pour répandre cette dévotion ». Mais cette dévotion, ces apparitions, n'ont jamais été reconnues officiellement. Quoique la dévotion à Notre-Dame de Pellevoisin a connu une grande vogue en France au début du siècle. Disons en terminant que la spiritualité de Marie de la Rousselière tient à plusieurs influences. Elle a été marquée par sa dévotion eucharistique très belle, dévotion qui lui vient de Saint-Pierre-Julien Aymard, ça lui a été marqué par lui. Elle a aussi une grande influence par ce culte de la réparation au Sacré-Cœur, la consolation de Jésus, qui lui vient de Sainte Marguerite Marie, dont je vous parlerai dans quelques jours, lors de la fête de Sainte Marguerite Marie à la Coque, c'est le 16, le lendemain de la fête de Sainte Thérèse d'Avila. Puis aussi la dévotion mariale, qui lui vient de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Si vous... je voudrais une petite prière en terminant. Seigneur Jésus, tu as choisi Marie de la Rousselière comme apôtre de ton Sacré-Cœur pour nos temps modernes. Tu lui as inspiré de fonder le sanctuaire de la réparation au bout de l'île de Montréal, à Pointe-aux-Trembles, lieu de rassemblement et de réconciliation en ton cœur miséricordieux. Daigne, nous t'en prions, sa prière, mettre dans nos cœurs le feu de ton amour, et puissions-nous, comblés de tes faveurs, devenir nous aussi à notre tour des témoins de ta miséricorde dans notre monde d'aujourd'hui. Amen.